Voilà, donc je me présente, je suis IEN. Bon, ce matin, j'étais un petit peu... j'ai pris la parole pour dire que les inspecteurs étaient aussi n'étaient pas seulement des personnes angoissées et des personnes chargées de contrôler ce qui se passe dans les écoles. Il y a aussi des IEN qui participent complètement à la recherche, justement, de meilleure réussite des enfants de leur circonscription. J'espère en faire partie et ne pas participer à augmenter les difficultés des enseignants et leurs souffrances au travail qui existent, bien entendu, pour certains. Alors, ce que je vais présenter, ce que Patrick m'a demandé de présenter, c'est une illustration un petit peu des échanges de ce matin. C'est un projet mis en place dans ma circonscription pour essayer de fédérer le travail dans ma circonscription. Alors, ce projet s'appelle le GRAEL, Groupe de Recherche Action en Écriture Lecture, avec André Ouzoulias, que sans doute vous connaissez, et qui est décédé il y a maintenant 8 mois. Donc, en introduction, bon, je vous présenterai les deux objectifs de cette recherche action. Cette recherche, elle répond à deux objectifs principaux, avec un petit historique jusqu'à la décision de mettre en place cette recherche avec André. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai ce que c'est que ce GRAEL, les principes du GRAEL, le travail collectif qui a été mis en place à l'occasion de ce GRAEL, et le déroulement méthodologique de la recherche, comment les différentes phases de mise en place de cette recherche. Dans un troisième point, je ferai le bilan de ce travail. Alors, comme le dit Patrick, effectivement, il y a des réussites, je vous les citerai. J'ai essayé d'analyser un petit peu les conditions de réussite de ce travail collectif pour en tirer, des enseignements pour la suite. Mais aussi, je mentionnerai les obstacles qui sont là et qui nuisent au travail collectif. Et je vous ferai part d'une réflexion qui m'est venue en prenant un peu de recul sur cette recherche qui a duré 3 ans et sur 2 notions qui me semblent différentes, travail collectif et travail d'équipe. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le travail collectif, c'est plus facile à fédérer que le travail d'équipe. Donc, je vous dirai un petit peu ce que je pense de ça. Et en conclusion, je vous expliquerai un petit peu rapidement. Ma circonscription fait partie des 106 REP plus en préfiguration. Et donc, comment j'essaie, pas toute seule, avec nombre de collègues qui sont partie prenante de la formation et de l'accompagnement des enseignants dans ma circonscription, comment on met en place le travail collectif dans le REP plus Jules Verne, des Mureaux. Et puis pour finir, j'ouvrirai par de nombreuses interrogations qui restent sur le travail collectif, le travail d'équipe, comment le rendre efficace. Et ces 2 jours, je pense, m'aideront, et vous aussi, je pense, à répondre à un certain nombre de ces questions. Voilà, donc... je suis donc inspectrice depuis 1997 et depuis 2001 au Mureaux. Donc je suis restée de longues années au Mureaux. C'est une circonscription qui est en éducation prioritaire totalement. C'est uniquement la ville des Mureaux. Il y a 22 écoles, 11 maternelles, 11 élémentaires, une école privée, 3 réseaux d'éducation prioritaire, 2 RRS et un rare éclair qui est devenu cette année préfigurateur de REP+. Environ 260 enseignants et 4300 enfants dans les écoles. Donc en septembre 2011, décision est prise avec André Ouzoulias d'une recherche-action sur le lire-écrire dans la circonscription. Alors d'une part, pour améliorer l'enseignement de la lecture et de l'écriture, de nombreux jeunes collègues arrivent avec une formation plus ou moins importante et plus ou moins opérationnelle, en particulier sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui est une compétence à travailler depuis la maternelle jusqu'après le collège même. avec de nombreux enseignants débutants qui sont en demande de formation et de conseils. Et puis également avec le besoin de rechercher une cohérence entre les interventions de tous les intervenants qui travaillent sur le réseau. Alors j'ai pu, puisque ça fait longtemps que je suis en éducation prioritaire dans cette circonscription, suivre l'évolution de l'éducation prioritaire, peut-être sans doute vous aussi. Une des évolutions importantes n'est pas de réduire les effectifs dans les classes, mais d'ajouter des enseignants sans classe, des enseignants supplémentaires, des maîtres supplémentaires, les maîtres plus, comme on les appelle au Mureaux, des enseignants d'appui dans les collèges et qui travaillent aussi dans les... Donc, un certain nombre d'enseignants supplémentaires sont là pour aider, accompagner, soutenir les équipes. Ça fait beaucoup de monde et il faut chercher une cohérence. Voilà, donc améliorer la réussite des élèves des Mureaux dans leur apprentissage de la lecture dès le CP. D'ailleurs, même ensuite, on a ouvert aux grandes sections. Alors juste un petit historique avant d'entrer plus avant dans la description de cette recherche-action. La circonscription avait été impliquée en 2002, à la rentrée 2002, dans l'expérimentation des CP à effectif réduit. Je ne sais pas si certains ont souvenir, c'était Luc Ferry qui avait souhaité voir si la réduction des effectifs en éducation prioritaire et dans les classes de CP avait des effets sur les apprentissages des élèves. Les résultats nationaux ont montré qu'il y avait une toute petite avancée dans les CP à effectifs réduits. Il y avait des classes témoins. Des CP, donc les CP, dans les CP à effectifs réduits, il y a eu des évaluations. Et puis, il y avait des évaluations aussi dans des CP témoins où il n'y avait pas cette réduction importante des effectifs. Bon, les résultats nationaux ont montré que le gain, le bénéfice de la réduction des effectifs n'était pas suffisamment important pour que ce dispositif soit généralisé. Bon, dans tous les bilans que j'ai pu faire avec mes équipes, des effets dans les classes de CP des Mureaux, par contre, nous, on était un petit peu en décalage, c'est-à-dire qu'on trouvait qu'effectivement, quand les enfants étaient par groupe de 10, la moitié de la journée pour apprendre à lire et à écrire, eh bien, ils apprenaient plus vite, plus facilement, et les effets en CE1 étaient toujours là. Des effets non seulement sur l'apprentissage de la lecture, mais également sur la motivation, sur les autres apprentissages, sur l'oral, sur la capacité à prendre la parole, la capacité à dire ses difficultés, voilà, bon, etc. Donc, il y avait des effets positifs de ce travail en co-animation, parce qu'en fait, donc, dans ces CP effectifs réduits dans ma circonscription, il avait été demandé que les deux enseignants soient une bonne partie du temps en co-animation dans la classe pour faire de la production écrite dès le début du CP. On était déjà dans cette problématique-là de faire écrire les enfants pour les aider à mieux apprendre à lire. Donc, bien sûr, l'expérimentation nationale s'est arrêtée. Par contre, au Mureaux, nous avons souhaité continuer à mettre en place les CP renforcés, c'est-à-dire que j'avais à disposition des enseignants supplémentaires et qui travaillaient une heure tous les jours, une heure par jour, dans les classes de CP, pour aider les enseignants à mettre les enfants en situation de produire de l'écrit. Et les résultats étaient très, très encourageants. Bon, il y avait aussi un besoin de continuité, c'est-à-dire que cette production écrite quotidienne dans les classes de CP devait être poursuivie en CE1, au risque sinon d'avoir un effet relativement nul. Voilà, donc il fallait continuer dans les niveaux suivants pour que les acquis du CP ne reste pas trop fragile et puisse continuer à se développer. Alors, il fallait qu'on réponde aussi à une question récurrente des enseignants de tout niveau. Comment s'y prend-on pour faire écrire les enfants? Comment s'y prend-on pour les faire écrire d'une façon un peu autonome, pour éviter d'avoir des feuilles avec des fautes, des erreurs orthographiques très nombreuses à corriger? Toujours dans l'historique de la circonscription, une habitude de travail avec André Ouzoulias, depuis le début de mon arrivée, je connaissais André auparavant, certains en éducation prioritaire, c'est un dispositif connu, certains connaissent les MACLÉ, les modules d'approfondissement des compétences en lecture-écriture, on avait des MACLÉ dans la circonscription, donc André était très souvent là. Ces modules-là, ce sont déjà des dispositifs qui demandent un travail collectif de différents enseignants. Dans les MACLÉ, certains maîtres, eux, participaient. Parfois, la psychologue scolaire, des directeurs déchargés, les enseignants des classes, des enseignants d'autres classes. Par exemple, on fait des MACLÉ en grande section. Les enseignants des classes de petite section, l'après-midi, viennent prendre des groupes... dans ces modules. Donc là, déjà, on avait une réflexion sur le travail collectif et sur les apprentissages de la maîtrise, dans la maîtrise de la langue. Ce passé-là de travail en collectif et avec André a fait que le deuxième objectif de la recherche, qui était de répondre aux besoins de trouver une cohérence dans les différentes interventions, c'était déjà une question qui était présente en permanence dans nos esprits. Trouver un moyen efficace de faire travailler ensemble ces personnels sans risque de perte de sens. Vous connaissez bien la métaphore du millefeuille, c'est-à-dire des interventions qui se superposent dans les classes des enfants. Et là, l'efficacité, non seulement n'est pas réelle, mais en plus, ça peut être un handicap pour les apprentissages des enfants. Alors, cette recherche-action répond à la nécessité d'assumer ces deux priorités. Faire travailler ensemble les différents acteurs sur un plan horizontal, disons que les enseignants des mêmes niveaux devaient travailler dans la même optique, et puis faire travailler aussi dans la continuité de la grande section. Bon, nous, on a fait de la grande section jusqu'au CE2, on avait l'intention de continuer ensuite sur le cycle 3, mais malheureusement, le projet s'est arrêté l'année dernière. Donc, on a mis en place le GRAEL en septembre 2011, donc groupe de recherche action en lecture-écriture, avec le soutien de Danielle Manès, peut-être que certains la connaissent, qui est chercheuse aussi, et qui travaille dans le cadre du GRAC, c'est le laboratoire d'ILTEC de Paris 3. Donc, ce groupe de recherche action a été proposé aux enseignants. Bien sûr, il n'a pas été imposé. Je n'ai absolument pas la possibilité en tant qu'IEN d'imposer quoi que ce soit dans ce domaine-là aux écoles. La recherche-action a été proposée aux écoles des Mureaux. Il fallait respecter la consigne, malgré tout, la contrainte, que des équipes de cycle s'engagent. Ce n'étaient pas des individus isolés. Il fallait que, pour pouvoir mettre en place cette recherche, vous allez voir les principes, je vais les énumérer ensuite, il fallait que des enseignants, au départ c'était CP, CE1, CE2, s'investissent dans la recherche. Et puis l'année d'après, on a commencé aussi avec les grandes sections des mêmes écoles. Donc il y a eu 6 écoles qui sont entrées de leur plein gré dans cette recherche-action. Volontairement, c'est un choix d'école et d'équipe. Alors, les principes de ce GRAEL, à partir du moment où les enseignants entraient dans cette recherche-action, bien sûr, les principes étaient respectés. Alors, premier principe, une pratique intense et régulière de l'écriture de textes dès le CP, si possible tous les jours. Ensuite, ça a été même dès la grande section. Donc, effectivement, Patrick a fait des films et vous les avez sur dans la circonscription. Vous les avez sur le site de l'IFE. Donc, on voit des enfants, production écrite en grande section, en CP, en CE1, en CE2. Tous les jours, donc, les enfants écrivent des phrases, des textes courts. Alors, au départ, c'est à partir de structures existantes, hein, pour éviter que les enfants soient confrontés de front, dans les mêmes séances, à la cohérence textuelle, cohérence de, et celui de la langue. L'apprentissage de la cohérence textuelle et l'apprentissage de la langue. Donc, avec des structures répétitives, transformées par les enfants, on peut déjà faire écrire les enfants de grande section et de CP en début de CP. Ensuite, bien entendu, les textes deviennent plus longs et plus créatifs. Deuxième principe, donc c'est un principe qui ne fait pas l'unanimité, hein. Vous verrez des chercheurs qui disent le contraire de ce que je vais vous dire là, mais voilà. Les élèves sont invités à ne pas inventer l'orthographe des mots. C'est-à-dire que dès l'entrée dans l'écrit, depuis la grande section donc, on développe le doute orthographique. Les enfants n'écrivent pas comme ils entendent. On leur demande de respecter la norme orthographique dès les premières productions écrites. Pour cela, ils utilisent des outils de référence, bien entendu. Il faut qu'ils soient aidés, assistés, étayés, pour pouvoir, de manière un peu autonome, écrire sans être en permanence en train de solliciter l'aide du maître ou de la maîtresse. Donc, ils utilisent des outils de référence, pas le dictionnaire classique qui est un outil pour la lecture, mais pas pour l'écriture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants en production écrite, quand les enseignants leur disent d'aller chercher le dictionnaire, vous êtes sûr que la situation dégénère, parce que les enfants tournent les pages, ne trouvent pas le mot, tombent sur des images. Bon. Donc, c'est un outil qui est utile quand on est en lecture, parce que le mot, on voit l'orthographe du mot, on ne connaît pas le sens, donc on peut aller le chercher plus facilement, et on va à ce mot-là. En production écrite, il vaut mieux des dictionnaires orthographiques, ou qui sont beaucoup plus petits, il n'y a pas d'image, et vous avez uniquement l'orthographe du mot, vous n'avez pas besoin d'avoir la recherche de sens, vous n'avez pas les définitions. Donc, pour les plus grands, des dictionnaires orthographiques, pour les plus petits, des glossaires illustrés, hein, des textes de référence, des affiches, des listes analogiques, j'en parlerai un petit peu plus tard, et puis les dictionnaires orthographiques, donc à partir du CE1. Donc, comme dictionnaire orthographique, vous avez, en CP-CE1, vous avez MEMO, hein, ce sont les outils Freinet de la collection PEMF, MEMO. Vous avez aussi tous les outils qui ont été confectionnés par les enseignants, par eux-mêmes, hein, les enseignants de CP qui confectionnent des outils de référence avec les listes des mots qui sont les plus utilisés en lien avec les écrits des enfants. Le 5000 mots aussi. Et puis Eureka, c'est un dictionnaire phonologique aux éditions de Bock qui est aussi très utilisé dans les écoles des Mureaux. Voilà. Alors, si nécessaire, c'est le maître qui dépanne. C'est-à-dire que si l'enfant ne trouve pas le mot qu'il recherche dans les affiches qui sont au mur, dans les glossaires, dans les dictionnaires, il n'arrive pas à trouver le mot qu'il cherche, il ne cessait pas à encoder lui-même. Là aussi, ça ne fait pas l'unanimité. Il attend que son maître vienne l'aider ou sa maîtresse vienne l'aider à encoder le mot. Alors, ensuite, quand une même correction commence à être vue plusieurs fois dans les situations de production écrite, des listes analogiques sont construites avec les enfants au fur et à mesure de la rencontre, par exemple, hein, de « et »,« est », les homophones, hein, « a », « a », ou avec accent. Ou par exemple des mots comme ceinture, teinture, avec un peu particulier. On crée des listes analogiques, c'est-à-dire on fait des listes avec tous les « et » qu'on a rencontrés, qui s'écrivaient « et », des mots, des listes avec les petites phrases, avec les haies qu'on a rencontrées, EST. Et ces listes servent ensuite aux enfants qui, par un raisonnement analogique, vont essayer de s'y retrouver avec une espèce d'intuition de la langue. Bon, donc, si j'ai le temps, si ça intéresse des collègues, hein, que j'entre dans les détails de cette recherche-action, mais voilà, les grands principes sont ceux-là. Alors, ce qui est... alors, les résultats de cette recherche, des enfants qui aiment écrire. Bon, si vous allez voir un petit morceau de film, mais si vous allez sur le site de l'IFE, vous verrez. Mais c'est pas le seulement dans ces quatre vidéos-là, moi qui parcours les classes, à chaque fois que cette démarche et ces situations de production écrite où les enfants sont outillés, aidés, ça dédramatise complètement la situation de mise en production d'écrit des enfants. Les enfants aiment écrire. Ils réclament, si jamais l'enseignant aujourd'hui n'a pas le temps de faire écrire, les enfants, je peux vous l'assurer, réclament d'écrire. Il y a une ambiance de travail et de coopération très intéressante dans les classes. Et puis, bon, il y a un fort impact sur les compétences, bien sûr, de scripteur, mais aussi de lecteur. Alors, vous avez d'ailleurs un livre, une édition posthume hein, d'André Ouzoulias. C'est un tout petit bouquin chez Retz qui s'appelle Lecture-écriture, qui est sorti là au mois de février dernier. Lecture-écriture, quatre chantiers prioritaires pour la réussite. Lecture-écriture, quatre chantiers prioritaires pour la réussite chez Retz, d'André Ouzoulias. Et donc il évoque le travail en particulier fait dans la circonscription. Alors, travail collectif mis en place pour revenir à notre sujet. Le travail collectif, en fait, il était indispensable. Il était le collectif de ce groupe de recherche était constitué de différentes catégories de personnes avec des missions extrêmement diverses. Il y avait d'abord le chercheur André Ouzoulias. Il y avait les enseignantes des six écoles. Il y avait des équipes du centre-ville des Mureaux. Il y avait des équipes du REP+. Il y avait des enseignants de grande section CP, CE1, CE2, donc maternelle, élémentaire. Il y avait les enseignants supplémentaires ont participé aussi. Il y avait des maîtres aussi qui ont bien voulu entrer dans cette recherche-action. Et puis, bien sûr, toute l'équipe de circonscription, les coordonnatrices, les conseillères pédagogiques et puis moi-même, l'IEN. Nous étions aussi dans cette recherche-action. Donc une grande diversité des statuts, mais également sur le plan de l'expérience de chacun. Il y avait des T1, des T2, et puis des maîtres chevronnés, des débutants, des maîtres formateurs qui ont participé aussi, des enseignants spécialisés, des enseignants de maternelle et de cycle 3. Alors, comment s'est passé le déroulement méthodologique hein, de la recherche? Voilà comment ça s'est passé, les différentes phases. Le lancement de la recherche, donc, bon, André avait posé quelques contraintes, hein, effectivement, il fallait qu'il y ait des équipes d'école et qui s'engagent à respecter les principes que j'ai énumérés tout à l'heure. J'ai reçu donc les candidatures des écoles, on a réuni tout le monde. Et lancement de la recherche par André, présentation des concepts et des orientations didactiques. Présentation de la démarche proposée, quelle démarche pour mettre les enfants en production écrite, les principes hein, qui devaient être respectés dans la méthodologie de mise en situation. Ensuite, il y a eu le partage d'un projet qui était l'aboutissement de la recherche-action, bon, qui n'a pas eu lieu à cause du décès d'André, par une publication des travaux. Il devait y avoir une publication. Alors, effectivement, là, il s'est dépêché d'écrire quatre articles qui ont été publiés. Mais sinon, il devait y avoir un outil un peu plus important, justement, au service des enseignants. Comment faire pour faire écrire les enfants et comment en faire un levier important pour l'apprentissage de la lecture. Donc, il annonce ce projet d'une publication des travaux et il annonce il présente le plan de travail sur l'année et sur les 3 années à venir. Ensuite, nous avons des réunions régulières pour le partage des expériences. Donc, chacun dans sa classe mettait en place la démarche proposée. Partage des difficultés rencontrées aussi, partage des réussites, partage des tâtonnements, des essais, des erreurs en groupe. Et une régulation, donc je pense que cette recherche-action-là illustre bien ce qu'on a déjà évoqué ce matin, une régulation par André qui répondait aux questions, qui faisait aussi des propositions et qui faisait des synthèses pour aider le groupe à avancer. Ensuite, alors ça je pense que c'est un atout très important, l'inspection académique a mis à ma disposition, à la disposition du groupe de recherche, des remplaçants. Ce qui m'a permis de mettre en place des journées de formation. Et ces journées de formation, ce n'étaient pas des cours magistraux, ce n'étaient pas des conférences, c'était des observations réciproques dans les classes. Les enseignants de CP allaient voir en grande section et en CE1 comment les enseignants mettaient en place les situations de production écrite. Les enseignants de CE1 allaient dans les niveaux proches en CP et en CE2. Et ces observations dans les classes permettaient ensuite, bien sûr, quand on se retrouvait, d'analyser les pratiques des uns et des autres. Et moi, je crois énormément à la formation par les pairs. Bien entendu, il faut analyser ce qui a été vu et en retirer ce qui peut être transférable. Ensuite, les enseignants expérimentaient dans leur classe ce qui avait été observé dans les classes des collègues. Et on a aussi organisé des rencontres régulières par niveau proche. On prenait que les grandes sections CP, que les CPCE1 à d'autres moments, pour éviter aussi d'avoir toujours le grand groupe. Et on conceptualisait progressivement les acquis de la recherche. Alors, les réussites, le bilan de cette recherche-action. Les réussites sont celles-ci. Recherche-action qui a mobilisé les différents participants pendant 3 ans. Donc, participation active de la plupart d'entre eux, beaucoup, beaucoup de partage d'expériences et des enseignants qui ont manifesté qu'ils avaient évolué beaucoup dans leur pratique de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Une dynamique est à l'heure actuelle encore vivante dans les écoles, dans certaines écoles. Troisième réussite, les maîtres formateurs et les conseillers pédagogiques qui visitent les jeunes collègues débutants continuent à diffuser les principes de cette recherche, donc qui ne s'arrêtent pas simplement au groupe qui a travaillé, mais les conclusions de cette recherche continuent à diffuser dans les écoles, non seulement dans la circonscription, mais dans d'autres circonscriptions. Et des collègues inspecteurs qui ont été intéressés, qui ont demandé qu'on fasse des interventions dans leur propre circonscription. D'ailleurs, une intervention est prévue. On m'a demandé, Viviane Bouis m'a demandé d'intervenir sur le séminaire maternel à Lézenne le 19 novembre pour parler de cette recherche-action. Donc, c'est une recherche qui a été utile, efficace sur le plan du travail collectif. Elle a permis de faire progresser les enseignants, elle a permis d'assurer une dynamique au sein de la circonscription, de mettre de la cohérence dans les interventions nombreuses auprès des enfants et de faire évoluer l'enseignement de la lecture et de l'écriture dans la circonscription. Les conditions de réussite, donc c'est un bilan plutôt positif. Alors j'ai réfléchi sur à quelles conditions, parce que si je peux ensuite transférer sur d'autres dispositifs, c'est aussi le but. Alors les conditions de réussite, je vais redire un petit peu certaines choses qui ont été dites ce matin. D'abord, c'était un projet qui correspondait à une attente des enseignants. Les enseignants étaient très demandeurs de quelle situation, quelle démarche, quels outils pour faire écrire les enfants. et améliorer leur capacité, leur compétence en lecture et le lien avec l'orthographe, très important aussi. D'autre part, c'est un volontariat des enseignants. Rien n'était imposé. Les enseignants qui ont participé adhéraient au projet. C'est eux qui ont été volontaires. Troisième condition de réussite, à mon avis, c'est le lien théorie-pratique. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'intérêt de chercheurs qui viennent travailler de cette façon. André Ouzoulias, il a passé des heures et des heures dans les classes, aux Mureaux. Il est venu très souvent. Donc, lui se nourrissait de la pratique des enseignants et de ce qu'il voyait dans les classes. Et ensuite, bien sûr, il nourrissait les enseignants de sa réflexion théorique. Et ce lien théorie-pratique, je pense que c'est un des facteurs principaux de réussite du travail collectif. Une autre condition de réussite, beaucoup d'observations réciproques des enseignants dans les classes, des échanges d'expériences, échanges entre eux. On parlait tout à l'heure de la hiérarchie et puis des injonctions descendantes. Là, il y avait beaucoup d'échanges sur le plan horizontal entre les enseignants. Un cadre de travail prédéterminé, c'est-à-dire précisément déterminé. C'était pas flou, c'était précis. André est arrivé avec sa démarche bien... Non pas complète. Enfin, il y avait toujours une souplesse puisqu'on a fait évoluer les choses au cours de la recherche-action. Mais le cadre était bien déterminé, il était simple, il était mobilisable par tous, qu'on soit en grande section ou en CE2. Quel que soit l'expérience, un T1 s'emparait très bien de cette démarche, aussi bien qu'un maître formateur. Les résultats n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes, mais... Il pouvait s'emparer de cette démarche, quel que soit le niveau. Démarche claire, des outils faciles à utiliser. D'autre part, un outil de continuité d'une classe à l'autre, c'était la participation des EUSEP et des maîtres plus qui étaient formés aussi dans cette recherche-action.
EUSEP ?
EUSEP, enseignants supplémentaires au titre de l'éducation prioritaire. Et les maîtres plus, ce sont les maîtres supplémentaires qui ont été... donnés dans le cadre de la refondation de l'éducation prioritaire. Et les maîtres supplémentaires, je ne sais pas s'il y en a ici, dans la salle peut-être, oui, voilà, maîtres supplémentaires sont attachés à une école ou un groupe scolaire, alors que les EUSEP sont attachés à la circonscription. Donc, ce n'est pas tout à fait le même travail. En tous les cas, ils assurent la continuité d'une classe à l'autre. Mais, dernière condition, et moi qui me semble la condition la plus indispensable pour que le travail collectif débouche sur un travail d'équipe dans les classes, au sein des écoles, c'est un relais dans l'école. Et ce relais dans l'école, pour moi, c'est le directeur. Un directeur...
Et vous l'avez en vidéo, enfin, si on ne peut pas détailler, on a cet oui. entretien avec Sylvie et le directeur de l'école qui vous donnera... Voilà, je te laisse continuer.
Voilà. Donc, le directeur de cette école-là, je l'avais pris, je voulais le prendre aussi comme exemple. C'est un directeur qui a une autorité pédagogique. Alors, il est formateur et plus du département des Yvelines aussi depuis septembre. Ce directeur, donc, c'est un relais dans l'école. C'est un directeur qui a une autorité pédagogique sur les collègues. À la fois relationnel aussi, il a un poids relationnel, il a une autorité aussi institutionnelle, puisqu'il est directeur d'école. C'est un relais qui adhère au projet collectif, et à ce moment-là, le travail collectif de la recherche-action, qui était un travail de plusieurs écoles, et de l'équipe de circonscription, et d'André Ouzoulias, on ne formait pas une équipe, mais c'était un travail collectif, devient un travail d'équipe au sein de l'école s'il y a ce type de relais. Et c'est l'importance du directeur d'école, pour moi, est tout à fait primordiale.
On voit bien, excuse-moi discuter, mais je pense que... Voilà, on voit bien comment c'est dans le détail des choses, que les choses s'incarnent ou pas. Et bien sûr, tu pourrais nous dire, si on te laissait plus de temps, comment dans telle école, ce qui va se passer sera différent de telle école d'à côté, parce qu'on ne va pas se retrouver avec... un directeur pluricompétent qui va être un bon pédago, qui va être, etc. Donc, voilà, ces conditions du détail, elles sont toujours très importantes, mais c'est quand on va regarder dans le détail de ces choses-là qu'on comprend pourquoi ça fonctionne ou pas. Voir ce que disait Françoise Lantôme hein, sur la génération ou la diffusion des bonnes pratiques avec lesquelles nous, on a vraiment une grosse distance. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye de jamais utiliser ces termes-là parce que diffuser des bonnes pratiques, ça voudrait dire diffuser des contextes. Et comme les contextes sont toujours singuliers, dire ça réussit ici, donc ça doit pouvoir réussir ailleurs, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens parce que les contextes sont toujours différents.
Alors, les obstacles, il y en a, bien sûr, hein, au travail d'équipe. Alors, il y a d'abord les enseignants qui changent d'école. Hein, d'ailleurs, en éducation prioritaire, on en a beaucoup. Des enseignants qui se lancent dans une recherche ou dans un travail d'équipe et puis qui s'en vont. La chaîne peut être rompue si celui qui arrive n'entre pas dans le travail d'équipe. Et une absence de relais dans l'école aussi. Il y a une dynamique qui peut s'essouffler, qui peut disparaître complètement. Alors, je pense à une école qui était dans la recherche-action. S'il y a des moments de... Si le relais ne se fait pas de façon précise, il peut y avoir des ruptures dans la continuité. Et là, cette rupture-là, elle est très, très nuisible pour les apprentissages des enfants. Je pense à une école où grande section CP, CE1, était dans la recherche-action. CE2, une enseignante était dans la recherche-action et l'autre, non. Je vais en inspection dans la classe de cette deuxième maîtresse qui a la liberté pédagogique. On va peut-être en dire un mot aussi, parce que travail d'équipe et liberté pédagogique, il y a une tension entre les deux, effectivement, on l'a déjà dit ce matin. Donc, liberté pédagogique, l'enseignante n'entre pas dans cette recherche-action. Elle fait une séance de production écrite et elle commence à dire à ses élèves en CE2, « Bon, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont vos idées. L'orthographe, ça ne m'intéresse pas, on verra ça plus tard. » Donc, l'idée, le principe fondamental de la recherche qui était « on n'invente pas l'orthographe des mots et on met l'orthographe normée dès qu'on commence à écrire », tombait complètement à l'eau. Donc, les enfants qui avaient eu cette démarche pendant 2 ans en CP et en CE1, je n'écris pas comme j'entends. Quand je ne connais pas un mot, je vais chercher dans mes référents. En CE2, on lui dit le contraire. Voilà, donc... rupture, j'ai pas eu le temps d'en parler avec les enfants, mais j'en ai parlé avec la maîtresse, mais je pense que c'est un obstacle important au travail d'équipe. Elle avait la liberté pédagogique de ne pas suivre cette démarche. Voilà. Alors, bon, moi je fais une distinction entre le travail collectif. Pour moi, le Graal, cette recherche-action, c'est une illustration de travail collectif. Nous étions une grande diversité de personnes, comme je vous ai énuméré au début, à travailler ensemble. Et c'était le volontariat de chaque personne, une adhésion au projet et donc une adhésion aux contraintes qui étaient à imposer à partir du moment où on adhérait au projet. Donc, travail collectif, ensuite fédéré, régulé à intervalles réguliers, par une instance extérieure, hein, André Ouzoulias, un chercheur, décentralisé dans les écoles, mais fédéré par cet individu. En plus, André Ouzoulias, ceux qui le connaissaient, c'était un collègue charismatique. Il n'était pas dans le jugement. Quand il allait voir dans les écoles, il voyait des choses parfois... comme moi aussi d'ailleurs, puis comme chacun peut le voir, c'est plus facile de voir que de faire. Hein. Mais il était absolument sans jugement, jamais. Il ne jugeait pas les enseignants, il faisait part de leurs difficultés, il pouvait montrer. Aucun enseignant ne refusait qu'on aille dans sa classe, soit André, soit moi, soit Patrick quand il est venu, il n'y avait aucun problème. C'était cette habitude de montrer, voilà, et ensuite de parler de ce qu'on fait. Il était à l'écoute des difficultés, on a parlé beaucoup de ça, on a parlé de la relation de confiance. Il avait une relation de confiance quand un enseignant, même un débutant, apportait quelque chose dans toutes nos réunions de régulation. Il était écouté et ce qu'il disait était valorisé. Il insuffle, il organise, il régule. Voilà. Donc Ça, effectivement, c'est une des conditions du bon fonctionnement de ce travail collectif. Le travail d'équipe est très difficile. Bon, là, comme on l'a dit déjà ce matin, c'est une injonction récurrente. Il faut travailler en équipe, en particulier en éducation prioritaire, c'est absolument important. Il y a maintenant tout un tas de gens qui interviennent dans les classes des enfants. Il faut réfléchir sur le comment faire. Parce que dire « il faut travailler en équipe », c'est une chose. Dire « comment travailler en équipe », je pense qu'on est là tous pour chercher des solutions. Les enseignants ne sont pas formés au travail d'équipe. Nous non plus, d'ailleurs, personne n'est formé au travail d'équipe. On invente, on construit en faisant.
Ce que tu fais comme différence, excuse-moi pour être sûr d'avoir saisi, ce que tu fais comme différence, c'est que le travail d'équipe, ça serait le travail prescrit dans les espaces institutionnels, conseil de cycle, conseil des maîtres, conseil de réseau, etc. Oui. Et le travail collectif, du coup, ça serait plutôt ce qui serait choisi par les uns ou les autres dans le cadre d'un projet dans lequel ils s'engagent. Est-ce que je traduis bien ou est-ce que tu veux dire quelque chose de différent dans l'opposition que tu fais? Parce que bon, voilà, c'est juste pour nous aider à discuter entre travail collectif et du coup travail d'équipe.
Travail collectif, c'est quand on travaille ensemble, mais on ne fait pas partie d'une même équipe. On ne fait pas partie d'une équipe d'école.
Ce qui compte, c'est qu'on éclaircisse, hein, oui. ce que chacun en comprend. Après, chacun oui. se débrouille avec l'idée.
Je ne sais pas si vous voyez la différence que je fais. Le travail collectif, là, il y avait des enseignants de différentes écoles. Ils faisaient pas partie, enfin, ils faisaient peut-être partie d'une équipe qui était la circonscription, mais il y avait des gens, des enseignants de différentes écoles qui ne faisaient pas partie d'une seule équipe. Il y avait des enseignants supplémentaires qui ne font pas partie des équipes d'enseignants. Donc, il y avait et puis il y avait des conseillers pédagogiques, il y avait une grande diversité, mais qui travaillaient ensemble.
OK.
Sur un même projet. Alors, là, ils étaient volontaires. Bon, peut-être qu'il peut y avoir un travail collectif, alors que forcément, on n'est pas forcément des volontaires. On nous l'a peut-être imposé. Tandis que le travail d'équipe, c'est le travail des équipes. On est là qui est complètement, effectivement, institutionnel. Quand on est dans une équipe de circonscription, il y a un travail d'équipe. Quand on est dans une équipe d'école, on doit travailler en équipe d'école.